2017. Et je suis en charge de la communication, mais également je coordonne un groupe de travail qu'on appelle Digital Ethics, donc pour aller vers un digital plus éthique. Et aujourd'hui, l'objet de mon intervention va être de vous présenter un rapport qu'on a publié, dont le nom est un petit peu long, je l'ai traduit en français, et ça donne « Démanteler la domination numérique dans la culture, explorer des modèles alternatifs aux géants de la tech ». Et avant de rentrer vraiment dans le dur du rapport qu'on a écrit de manière collective avec le réseau, je vais un peu vous présenter la genèse du réseau et comment on en est arrivé à écrire ce rapport qui en fait fait partie d'un travail éditorial plus large où on n'a pas que parlé de digital mais de plein d'autres choses. Du coup, pour vous raconter un peu la genèse du réseau Reset, c'est parti de Artifarty, donc le réseau est coordonné par Artifarty. Je ne sais pas si tout le monde s'y tue, mais Artifarty, on est une association culturelle loi 1901, on est basé à Lyon, on organise notamment Nuit Sonore, le festival de musique électronique, on opère également le club Le Sucre. On a un incubateur de médias, de jeunes projets de médias indépendants qui s'appelle Hôtel 71 et on mène également pas mal de projets européens, dont Reset. Et donc, là, un peu le tout début de Reset et comment on en est venu à créer ce réseau. Donc, pour dire deux mots quand même sur Reset, avant, c'est un réseau d'acteurs culturels et de médias indépendants. Aujourd'hui, on a plus de 150 membres dans à peu près 35 pays en Europe. Voilà. Et du coup, comment on en est venu à créer ce réseau ? Eh ben, c'est parti d'un appel qu'on a lancé en plein pendant le Covid, hein, mars 2020, qu'on a appelé l'appel des indépendants. Et là, l'idée, c'était d'alerter vraiment sur des enjeux de survie, hein, puisque en tant qu'acteur culturel indépendant, notre survie était vraiment mise en péril, puisque structurellement, on est des acteurs assez fragiles, qui peuvent être de petite taille ou pas, mais notre survie économique dépend vraiment de notre activité. Donc on a lancé cet appel qui a été signé par 1600 structures en France et 200 structures en Europe. On avait déjà un petit peu, vu qu'on était quand même une structure qui œuvrait à l'échelle européenne, on avait déjà un petit peu l'idée derrière la tête d'amener cette initiative-là à l'échelle européenne. Et donc, suite à ces signatures, on a organisé ce qu'on a appelé des états généraux. Donc là, on s'est réunis avec tous les signataires en 50 workshops sur plusieurs mois, évidemment. Et l'idée, c'était de sortir de ces temps de travail vraiment avec des propositions thématiques très concrètes à destination des décideurs et des décideuses politiques pour inspirer, faire le constat des politiques publiques qui étaient à l'œuvre. Et autant vous dire que le constat n'était pas très reluisant, hein, on ne va pas se cacher. Surtout inspirer de nouvelles idées et vraiment arriver avec des choses très concrètes. Donc ça, c'est mars 2020. Ça, c'est fini en 2022. Et suite à ça, on a eu l'idée de mener ce travail-là à l'échelle européenne. Et donc on a déposé un appel Europe Créative. Donc je ne sais pas si tout le monde se situe Europe Créative. Peut-être s'il y a pas mal de personnes qui viennent plutôt de l'université, vous connaissez sûrement plus Horizon, les financements européens, mais il y a pas mal de ponts à créer entre les deux dans tous les cas. Et donc du coup, on a eu le financement Europe Créative, un financement réseau. Donc on a créé Reset, qui rassemblait à l'époque 35 acteurs culturels et médias indépendants. C'est l'indépendance pour nous, c'est au cœur du réseau et c'est la condition sine qua non pour rentrer. Et donc avec ces membres fondateurs, on a refait un petit peu la même chose qu'on avait faite à l'échelle française. On a fait des workshops dans 27 pays. Et là, c'était nos membres qui se saisissaient vraiment de nous, ce qu'on leur proposait, de, de créer des espaces de réflexion avec d'autres acteurs culturels et médias de leur territoire, et surtout de parler des sujets qui étaient difficiles pour eux, mais vraiment de se saisir des sujets qu'ils voulaient. On n'a pas du tout imposé un cadre, donc il y a eu des gens qui ont réfléchi sur des sujets écologiques, des gens qui ont réfléchi sur leur financement, et des gens qui ont réfléchi sur la question du digital et comment, en tant qu'acteur indépendant, on a conscience qu'on a une très très grosse dépendance aux GAFAM, ou nous on dit plutôt Magma aujourd'hui avec Reset, mais voilà. Donc au Magma, et est-ce qu'en fait on peut être vraiment indépendant en étant aussi dépendant à cet endroit-là? Et donc là, l'idée, c'était vraiment de recueillir, nous, les besoins des acteurs de terrain pour ensuite comprendre quels étaient les besoins à l'échelle européenne et ensuite pouvoir outiller au mieux nos membres. Et pourquoi pas, encore une fois, là, l'idée était aussi d'avoir un poids et de structurer le discours, quel discours qu'on voulait avoir face aux décideurs et aux décideuses politiques. Et donc à ce moment-là, il est vrai que nous, on avait, en tant qu'Artifarty, suite à l'appel des indépendants, on n'avait pas forcément identifié comme une priorité la question du digital et les questions éthiques autour de ça. Mais on a eu plusieurs workshops et plusieurs membres qui ont voulu tout de suite s'en emparer. Et notamment pas mal des membres issus des pays germanophones. On le verra après, mais encore une fois, c'est pas un hasard, puisque c'est évidemment des endroits où on réfléchit beaucoup à ces sujets-là. Donc voilà. Et suite à ce travail de workshop, donc qui a duré un an et demi, et de vraiment récolter sur le terrain quelles étaient les grandes préoccupations des acteurs culturels et des médias indépendants. On a fait un gros travail éditorial qui a donné lieu à cet atlas des acteurs de la culture et des médias indépendants. Et donc, on a sorti 8 volumes. Comme je vous disais, plusieurs thématiques avaient été adoptées, explorées, pardon. Le orange en bas, c'est sur la question de l'éthique digitale, mais on a également... Des membres qui ont réfléchi sur comment naviguer dans un contexte d'adversité politique, donc beaucoup des membres à l'est de l'Europe, mais pas que, aux questions écologiques. On a aussi travaillé sur la question de comment s'adresser à la jeunesse. C'était vraiment un gros travail sur plein de choses, mais moi aujourd'hui je suis là pour vous parler plus de la question digitale et pour vous dire un petit peu comment sont organisés ces volumes. Donc j'en ai posé là, n'hésitez pas à venir les consulter et même à les prendre, c'est fait pour ça, à la fin de l'intervention. Ils sont composés de différentes choses. On a fait des commandes d'articles à des chercheurs et à des chercheuses. On a également fait des interviews de certains de nos membres qui réfléchissaient particulièrement à certaines thématiques pour qu'ils nous exposent, eux, comment ils s'en emparent et quelles solutions ils font émerger. On a également mis, quand c'était pertinent, des comptes rendus de workshops qui avaient été menés. Et notamment, c'est le cas dans cet atlas-là, il y a des workshops qui étaient vraiment axés sur comment s'émanciper des magmas. Donc, on les a intégrés. C'était un peu... l'idée était aussi qu'il y ait le matériau soit de plein de formats différents, puisque pour nous, c'est des questions qui sont en réflexion, qui sont en cours. On en reviendra après sur comment on transforme aujourd'hui l'Atlas en action concrète, mais voilà, l'idée c'est aussi que le format en lui-même soit assez interactif et qu'il soit plein de ressources différentes, quoi. Voilà pour le contexte. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans le dur. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce rapport qui s'intéresse à comment démanteler la domination digitale qui s'exerce aujourd'hui et qui est très forte dans la culture, puisque comme dans plein d'autres secteurs, on est très dépendant de plein de structures technologiques. Donc comme je vous le disais, c'est une thématique qui a vraiment émergé du terrain, qui a été demandée par nos membres et auxquelles on n'avait pas forcément, nous, réfléchi plus que ça. Et c'était vraiment la première question, c'était en tant qu'acteurs qui défendons notre indépendance, comment on peut la défendre en étant aussi dépendant d'organisations qui ne sont pas du tout alignées avec nos valeurs. Et du coup, nous, de s'intéresser vraiment comment nos membres mettent des choses très concrètes en place pour s'émanciper de ça. Et nous, à l'échelle de Reset, vraiment mettre en valeur ces différentes initiatives. Et donc, moi, je vais vous présenter deux initiatives concrètes qui sont menées par nos membres. La première qui est menée par l'Armakun Radio, qui est une web radio qui est basée à Budapest, donc en Hongrie, qui a été créée en 2018. Et qui, quand ils ont créé la web radio, ils se sont posé plusieurs questions. Et la première était, en tant que radio, on a besoin d'un système de stockage important, puisque on crée beaucoup de contenu audio et que ça prend de la place. Leur envie, c'était vraiment de créer un software qui ne dépende pas des Magma, qui soit appropriable par toute l'équipe, donc qui soit pas trop complexe, et surtout qui soit bon marché, puisque c'est une radio qui est financée par ses auditeurs et ses auditrices, donc les moyens financiers sont limités. Et du coup, eux, ils ont réussi à développer une solution de stockage personnalisée, avec une combinaison entre un stockage sur le cloud et une application web qu'ils ont codée avec Python. Donc ça, c'est un exemple très concret de une radio qui était jeune et qui s'est posé ces questions-là et qui a réussi à créer une solution vraiment pour très... quand je dis personnalisée, c'est qui répond vraiment aux besoins qui sont les leurs, quoi. Ils développent des softwares qui sont gratuits et libres de droit. Donc aujourd'hui, ils sont mis à disposition. Si une autre web radio a envie de s'en emparer, tout le monde peut les contacter et avoir accès à ce qu'ils ont développé. Et également, ils ont une réflexion sur comment réduire leur dépendance au Magma dans la communication. Ça, c'est un enjeu qui est aussi très au cœur de les questions qu'on se pose en tant qu'acteur culturel et média également, puisque on sait qu'aujourd'hui, sans Meta, c'est compliqué de se faire entendre. Enfin, ça peut l'être, en tout cas. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est au cœur de leur réflexion. Et là, sans rentrer forcément dans le détail, parce que je ne sais pas à quel point vous êtes familier de toutes ces applications et de ces softwares, mais en gros, là, c'est leur organisation et sur quoi ils ont développé vraiment chacun de leurs besoins. Donc, à la fois avec le host provider, mais aussi l'engin vraiment pour la radio. Et à chaque fois avec plusieurs logiciels qu'ils ont ensuite réadaptés avec leurs besoins. Ils ont également une application mobile, enfin voilà. Donc ça, c'était plutôt à titre informatif pour les gens qui sont plus experts que moi, en tout cas, sur ces sujets-là. Voilà, donc ça, c'était un premier exemple qu'on a développé en longueur avec une interview de l'Armakun qui nous explique comment ils ont fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder après. Et puis, un deuxième exemple sur lequel je voulais qu'on s'attarde, c'est l'exemple de Station of Commons, donc qui est une organisation qui est basée à Helsinki, qui est une organisation qui est assez... je vais reprendre mes notes parce que c'est un petit peu complexe comment ils s'organisent. Mais en gros, ils se définissent comme une agence qui produit des pratiques digitales artistiques et qui rassemble plein de créatifs différents. Donc il y a des architectes, il y a des théoriciens des médias, il y a des activistes, des conservateurs d'art, des musiciens, des artistes numériques, voilà. Et eux, dès le début, la question des communs dans leur pratique digitale a été au cœur de leur manière de travailler. Et notamment, donc là j'ai mis une citation, selon eux, aujourd'hui, l'espace technologique, il profite vraiment qu'à certains intérêts privés qui sont très restreints, Et on est face à un manque cruel d'une contribution du grand public. Et eux, du coup, ils s'opposent un petit peu à cette notion de... d'un spectateur ou d'un auditeur ou d'un utilisateur du digital qui serait passif, qui serait isolé. Et au contraire, eux, ils souhaitent produire des situations plus collectives et surtout qui nous permettent de nous autonomiser dans notre utilisation du digital. Donc voilà un petit peu pour un peu leur manifeste. Et donc un exemple que je peux donner qu'ils ont créé, un exemple de projet, il y a le projet Lumbung Radio qui a vu le jour pendant la Documenta, donc je ne sais pas si tout le monde situe, mais c'est une grande exposition d'art contemporain en Allemagne qui a lieu tous les 5 ans. Là, c'était l'édition de 2022. Et en fait, ils ont créé cette radio qui est une communauté de 25 différentes radios déjà existantes, qui est coordonnée par eux, donc par Station of Commons. Et chaque radio donc, rassemble un collectif, c'est un collectif de personnes, hein, donc avec des artistes, des journalistes, des musiciens. Chaque radio a son propre fonctionnement, crée ses propres contenus. Lumbung ne fait pas de commande à chacune des radios, mais s'organise pour que chaque station de radio partage des contenus déjà produits dans son propre contexte et que avec toutes ces radios là il y ait une diffusion 24 heures sur 24. Voilà, donc Lumbung, vous pouvez aller écouter, hein, ça existe encore. Et voilà, donc là l'idée c'est tout est mis en commun. Et également, dans leur philosophie, il y a vraiment l'idée que de ces pratiques de mise en commun, d'open source, on apprend les uns des autres et on peut développer de nouvelles compétences. Donc voilà, c'est ça qui est au cœur de leur projet Lumbung et plus généralement de leur projet de Station of Commons. Donc voilà, en fait, là, en vous montrant ces deux exemples, l'idée, c'était vraiment de montrer comment les acteurs culturels indépendants peuvent se saisir de ces sujets-là et développer leur propre modèle. Je voulais quand même faire une petite aparté pour dire que c'est deux stations de radio et c'est pas un hasard. Nous, nos membres au sein de Reset, on n'a pas du tout que des radios, on a des labels de musique, on a des compagnies de théâtre, on a, c'est vraiment extrêmement large, on a des webzines, c'est hyper large, mais on a quand même fait le constat que en fait l'endroit de la web radio, de la community radio était très très féconde pour toutes ces réflexions autour de l'éthique digitale. Je peux que avancer des hypothèses puisque je n'ai pas fait de recherche exhaustive sur le sujet, mais c'est des questions qu'on se pose à l'échelle du réseau et on pense qu'il y a un petit peu de raisons. La première étant que déjà quand on crée une radio, on a forcément besoin d'outils techniques, ce qui n'est pas forcément le cas quand on monte une compagnie de théâtre en tout cas. Donc du coup forcément ça nous amène à nous poser certaines questions. Et par ailleurs, dans ces radios-là, il y a une identité qui est revendiquée, un peu DIY, on apprend sur le tas, chacun fait, et c'est aussi un terreau qui est assez fertile, du coup, pour les questions autour du digital et comment on se le réapproprie. Voilà. Du coup, c'était quand même un petit disclaimer pour vous dire qu'on n'a pas que des radios, mais c'est vrai qu'à cet endroit-là, sur ces questions-là, ils sont vraiment en pointe sur ces réflexions. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on fait après l'Atlas, puisque comme je vous dis, l'Atlas a été publié en 2023. Je dis pas de bêtises, 2024, donc je dis des bêtises. En 2024, le temps passe si vite. C'était donc un objet éditorial, mais qui n'a pas du tout vocation à être gravé dans le marbre. Au contraire, pour nous, et surtout la question du digital éthique, elle irrigue encore notre réflexion. Et c'est des sujets qui sont tellement mouvants qu'on continue à y penser et surtout à agir. Donc, notamment, on a chaque année, on choisit une thématique qui va vraiment venir irriguer toutes les activités du réseau. Et cette année, c'est la question de l'indépendance digitale. Donc, on commande des articles à des chercheurs, à des chercheuses, à des acteurs et actrices culturels et médias indépendants pour continuer à produire du savoir et de l'information sur ces thématiques-là. On fait également des sessions de formation pour nos membres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose au sein du réseau RICET. On veut s'outiller entre nous les uns les autres, donc on propose beaucoup de sessions de formation. On a également des événements qu'on organise. Là, en bas à droite, vous avez le RICET Forum qui aura lieu le 8 avril. Malheureusement, c'est pas à côté puisqu'il aura lieu à Athènes. Mais la thématique, c'est encore une fois l'indépendance digitale. Donc là, on va au cours de toute une journée réfléchir collectivement à cette thématique-là. Et puis également, j'ai envie de vous parler d'un groupe de travail. Qui s'appelle Digital Ethics. Et au sein du réseau, on a monté plusieurs groupes de travail où l'idée, c'est vraiment en petits groupes, collectivement, avec des membres qui sont intéressés par certains sujets, de se réunir régulièrement et de réfléchir à ces thématiques-là. Chaque groupe de travail est libre de définir ses besoins et ce qu'ils et elles souhaitent produire. Avoir vraiment cette dynamique de réflexion permanente et surtout de réflexion collective et de mise en commun. Le groupe Digital Éthique se réunit cette semaine j'en fais partie, ce qu'on a identifié comme besoin pour les acteurs culturels et les médias indépendants, c'est d'aller un petit peu au-delà du lister quelles sont les alternatives, c'est très facile de trouver aujourd'hui quelles sont les alternatives au magma pour chacun de nos besoins, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, pour un acteur culturel qui parfois est précaire, qui a une équipe restreinte, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce que ça me prendrait si je veux aujourd'hui quitter Google. En termes de temps, en termes d'investissement, en termes de connaissances à acquérir. Et donc on va créer un guide où vraiment on identifie pour chacune des alternatives ce qu'il faut mettre en œuvre, ce qu'il faut mettre en place pour que chacun, chacune soit capable de se dire est-ce que c'est possible pour moi de le faire ou pas aujourd'hui, est-ce que c'est une priorité ou pas, est-ce que j'ai les moyens à mettre en œuvre là ou pas. Donc voilà, c'est une des actions qu'on va mener avec ce groupe de travail, mais qui est que la première, puisqu'il a été lancé il y a quelques mois. Donc c'est aussi une manière de montrer comment, au sein d'un réseau européen, on s'empare de ces sujets-là et collectivement, on y réfléchit. Voilà. Je voulais également vous parler de nos actions de plaidoyer, puisque en tant que réseau, alors évidemment l'idée c'est de réfléchir ensemble, de s'outiller les uns les autres, mais également de pouvoir œuvrer à structurer le discours politique et surtout ce qui est mis en œuvre, puisque aujourd'hui nous on est absolument convaincus qu'il y a besoin d'une structuration au niveau européen et même national sur ces sujets et qui passe pas forcément. Enfin, en tout cas, ça peut se jouer à plein, plein, plein d'endroits. Et notamment, nous, l'année dernière, on a coécrit avec un ensemble d'autres réseaux européens une lettre ouverte qu'on a adressée à la Commission européenne et à son programme Europe Créative, puisque c'est le programme qui nous finance. La première chose, c'était de poser le contexte. C'était évidemment d'alerter sur les menaces qui sont causées par la puissance croissante des géants du numérique. Je pense qu'on... Enfin, aujourd'hui, on peut évidemment plus se leurrer sur quelles sont leurs intentions, sur comment tout ce qui est mis en œuvre... des algorithmes à l'absence de modération, ça va évidemment à l'encontre de tout ce que nous défendons en tant qu'acteurs culturels et médias indépendants, et de liberté de création artistique et de visibilisation des groupes minoritaires. Enfin voilà, c'est évidemment qu'on peut plus du tout nier ce qui se passe. Et donc de demander aux institutions de prendre des mesures qui s'imposent pour promouvoir l'indépendance du numérique. Et dans le cas d'Europe Créative, quand on répond à un appel à projet, Il y a des critères qui nous permettent de gagner des points pour ensuite avoir ce financement-là. Et il y a notamment des critères environnementaux, donc ce qui est super, on est évidemment très content qu'il y en ait et c'est absolument nécessaire. En revanche, il n'y a pas du tout de critères de si on a une pratique, une approche éthique du digital. Et donc c'est ce qu'on demande dans cette lettre ouverte, c'est que à l'instar de ce qui a été fait pour les critères environnementaux, tout l'activisme qui a pu être mené et qui a permis de créer ces critères-là, et aujourd'hui plus personne ne les remet en question, enfin s'il y a quand même des gens qui les remettent en question, mais en tout cas dans les appels Europe Créative, ces critères-là, ils existent. Nous, on demande à ce qu'il y ait des critères sur les pratiques digitales. Donc voilà, pour vous dire un petit peu l'étendue du travail qu'on mène avec Reset sur ces sujets et comment, en tant qu'acteur culturel et médias indépendants, encore une fois, on s'en empare. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je pense que je peux ouvrir les questions. Oui, Inès. Tu veux que je te fasse passer le micro ou...
Ouais, moi j'ai une question. On avait voulu vous parler, mais comment on pourrait venir dans le réseau?
C'est une excellente question, évidemment. Le réseau Reset, il y a trois types de membres. Il y a les membres les plus classiques qui sont, encore une fois, acteurs culturels et médias indépendants. Il y a des structures, des autorités, comment on les appelle? Ouais, mais l'autre, c'est local authorities. Ouais. Bon, local public authorities qui sont des mairies, par exemple la ville de Lyon est membre, la ville de Budapest est membre, la ville de... Ah non, pas Budapest, mais pardon, je dis n'importe quoi. Je disais de Bruxelles, de Gênes, mais on était en lien avec la ville de Budapest, je dis pas tout à fait n'importe quoi. Et le troisième type de membre, c'est des structures ressources. Effectivement, nous, on cherche activement à créer des liens entre les universités, des pôles de recherche, pour venir nourrir notre travail sur tous les sujets qu'on aborde. Encore une fois, je vous ai présenté que les questions digitales, mais on parle de beaucoup plus de choses que ça. Mais en tout cas, sur les questions digitales, nous, on est en recrutement actif, quoi. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Bon, là j'ai mis les contacts, et à vous, également vous abonner à notre newsletter mensuelle parce qu'elle est vraiment super. Mais en tout cas oui, c'est quelque chose qu'on cherche. Pour nous, c'était pas forcément le plus simple dès le début, puisque notre réseau, il était vraiment celui d'acteurs culturels et de médias, puisque c'est des gens avec qui on travaille depuis des années. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à créer le réseau. En revanche, aujourd'hui on se rend compte qu'on a besoin de venir nourrir nos réflexions avec des structures qui vont pouvoir être ressources pour nous, et inversement, on croit très fort à l'interconnexion et au fait qu'on puisse aussi nourrir ces structures ressources d'une approche de terrain, puisque c'est ce qu'on peut offrir. Donc voilà.
J'ai une question sur la formation. Vous avez parlé de la formation au sein des groupes et en fait, des membres. Vous avez parlé des recommandations que vous avez remontées à vos créatives. Est-ce que dans vos recommandations, il y a des projets de structuration d'une filière de formation adaptée aux enjeux éthiques, spécifiquement au digital et à la création numérique ou à la création de l'argent?
Effectivement, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est pas encore quelque chose qu'on a fait, de se structurer sur des filières comme ça, sur les questions du digital. On mène aussi d'autres. Là, par exemple, on a une grosse action de plaidoyer, du coup, qui est un petit peu différente, qui est sur la question de documenter la concentration dans le secteur de la musique, des festivals et des lieux de musique. Avec aujourd'hui, vous pourrez regarder si vous allez regarder un peu ce qu'on fait, il y a quatre grands groupes
qui possède plus de 200 vestiaires en Europe. Et du coup, là, on a un gros travail de plaidoyer là-dessus. Mais vu que je vous disais que cette année, on va parler de notre thématique est sur le digital, la concentration, c'est quelque chose qui est relié plutôt à l'année dernière. Et on commence officiellement, là, tout juste en février 2026, la thématique digitale. Du coup, c'est une bonne idée en tout cas, et c'est quelque chose qu'on va plus développer le plaidoyer sur le digital cette année.
J'ai une question concernant les autres que vous avez identifiés pour les structures qui sont indépendantes de Magma, de Diafram. J'imagine qu'il y a le pôle communication à travers les réseaux sociaux, des choses comme ça. J'imagine qu'il y a un pôle gestion interne, c'est-à-dire cloud, comptabilité, donc des logiciels open source qui peuvent évoluer là-dedans. J'imagine qu'il y a d'autres types de pôles. Est-ce que vous avez une liste de ça? Est-ce que vous avez testé? Et même du coup, est-ce que vous commencez à avoir des axes? Parce que je sais, par exemple, sur le cloud interne, il y a l'organisme des chatons qui permet d'avoir des nébulés, enfin des next. Vous savez exactement, mais
qui permettent d'avoir. Et du coup, voilà, quel type de pôle vous avez localisé pour justement prendre les structures indépendantes et reprendre un peu la main sur sa data.
Oui, bah, tu lises à Digital, t'en as déjà listé pas mal. Et effectivement, sur l'organisation interne, on travaille beaucoup avec Framasoft, je sais qu'ils étaient là hier, et ils nous accompagnent au sein du réseau pour travailler avec un Nextcloud, etc. Et ils sont d'ailleurs interviewés dans l'Atlas. Donc ça c'est un truc qu'on fait, et sinon bah, je veux citer un petit peu sur les radios, il y a la question du stockage qui est hyper importante pour certains acteurs, notamment bah, les médias, radios, en fait tous les gens qui produisent beaucoup de contenu, même des plateformes streaming alternatives, on a aussi au sein du réseau, donc ça la question du stockage elle est hyper importante. Et parce qu'aussi elle est extrêmement préoccupante, puisqu'aujourd'hui stocker sur Amazon c'est quand même très compliqué quand on a des très très grosses données. Donc ça c'est quelque chose auquel je pense là, qu'on a identifié. Ouais.
Est-ce que vous avez un événement spécifique 17 en cours d'année aussi, comme je pensais à l'European Lab avec quelques associés dans le conditionnement par exemple?
Ouais. Et bien effectivement, donc European Lab continue, donc pour donner un tout petit peu de contexte, donc European Lab c'est un forum de débat d'idées qui a aussi été créé par Artifarty et qui a une édition pendant Nuit Sonore qui s'appelle Nuit Sonore Lab. Et cette année, donc on fait pas mal de ponts hein, toujours entre nos projets, et du coup il va y avoir une table ronde qui est programmée par Reset pendant Nuit Sonore Lab, et qui est là sur la question de la concentration dans la musique, puisque comme je disais, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous en ce moment. Mais voilà, toujours à l'endroit de Nuit Sonore Lab, il y a toujours des choses qui sont co-programmées avec Reset. Après, on produit aussi des podcasts, donc ça c'est pas un événement, mais à distance, c'est des choses auxquelles vous pouvez avoir accès, qui sont évidemment en accès libre, gratuitement, etc. Et après, on fait quand même des événements pas mal à Bruxelles parce qu'il y a cette dimension européenne là. Mais en tout cas, à Lyon, il va y avoir une table ronde programmée par Reset pour Nuit Sonore et qui ne demande pas d'avoir un pied Nuit Sonore qui sera en accès.
Merci pour le travail de la formation. J'ai juste une petite question bien cernée. Là, vous parlez beaucoup d'indépendants, d'auto-hébergement, ce genre de choses. Côté européen, ils peuvent aussi être sensibles sur l'aspect souveraineté, qui n'est pas exactement le même sujet. Et du coup, vous, comment vous situez par rapport à ça? Et est-ce que vous avez plus d'interactions facilitées quand vous abordez le sujet de la souveraineté par rapport aux Européens, plutôt que sur les questions d'auto-hébergement ou d'indépendance aux plateformes, qu'elles soient nationales, européennes ou internationales?
Effectivement, la question de la souveraineté, on entend beaucoup dans les discours. En revanche, nous, en tant qu'acteurs culturels et médias, on n'a pas. Nous, on ne souhaite pas parler de souveraineté, on n'a pas envie de penser de cette manière-là. Pour nous, la question de l'indépendance, elle est plus intéressante. En revanche, il y a quand même, enfin nous, quand on parle avec des programmes type Europe Créative, ils nous entendent quand même sur les questions d'indépendance. Il y a pas de, enfin, on est assez entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'ICET qui souhaite compléter ou pas?
Juste, ouais, peut-être juste, je travaille avec Pierre-Yves du coup au sein du réseau ICET et on a rencontré des eurodéputés notamment. À gauche, centre, etc., qui nous encourage de parler beaucoup du sujet quand même de la souveraineté, justement, parce que pour eux, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir réussir à porter le sujet, justement, de l'indépendance. Mais voilà, mais c'est très connecté, évidemment.
Mais la commission, c'est un conseil que vous donnez, quoi.
Les eurodéputés,
ouais.
Ouais,
ok.
Et du coup, ouais, pour rebondir là-dessus, moi je me posais la question sur, donc, sur la lettre ouverte que vous avez faite pour justement demander à ce qu'il y ait des critères, comme les critères d'éco-responsabilité, des critères sur d'éthique digitale. Dans ces critères-là, je me posais un peu la question, est-ce que vous les amenez sous la forme de souveraineté, souveraineté numérique, ou sur ne pas utiliser les magas alors même que le lobby des MAMA sur l'Union européenne est bien connu. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà établi ces critères-là? Est-ce qu'ils sont déjà écrits? Quels termes vous utilisez pour pouvoir faire en sorte qu'ils apparaissent après dans les prochains appels à projets, que ce soit Horizon pour la recherche, Europe Créative ou d'autres? Enfin voilà. Et peut-être que vous n'êtes pas encore là et c'est normal, mais c'est assez ma tête.
On n'a pas établi de critères, très concrets pour l'instant. Et effectivement, nous, on a plutôt axé sur la question des magnats parce qu'on sent que c'est aussi quelque chose qui est très préoccupant à l'échelle européenne et pour les décideurs et les décideuses politiques. Là, pour l'instant, voilà, on s'est axé là-dessus. Mais de toute façon, c'est un travail de plaidoyer qui est au long cours. Donc, l'idée, c'est de continuer, évidemment. Et pourquoi pas d'arriver avec des critères plus précis.
Yeah.